Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
On va prêter serment, mesdames et messieurs, la main sur le cœur, l'autre sur la Bible, qu'on va tout, mais tout faire aujourd'hui pour vous offrir une autre Moses de bonne émission. L'ami Sébastien Boucher qui est là, comment ça va?
Salut Simon, vraiment bien. Puis t'as fait une entrée en matière de serment, hein? Ben oui, ça sera un des sujets aujourd'hui, le fameux serment. Bien content de vous retrouver, puis toi aussi Simon, on va passer... Une belle heure ensemble, des bons sujets encore cette semaine.
On vous salue partout où vous êtes à travers le Canada, d'un bout à l'autre, d'un océan à l'autre, on nous écoute sur la côte ouest du Pacifique, là, du côté de Victoria, on nous écoute jusqu'à l'autre bout complètement en Atlantique. Il y a des stations qui nous diffusent en Ontario. Bref, où que vous soyez, quoi que vous fassiez et qui que vous soyez, considérez-vous comme salué. Oui, tu vas parler de serment dans un instant, puis on va avoir d'autres sujets bien intéressants aujourd'hui. Tu vas parler, je pense, tantôt de dons, mais quelque chose d'un peu spécial.
Oui, les gens qui ont des dons spéciaux, tu sais, comme par exemple, tu as déjà entendu ça, ceux qui sont capables d'arrêter le sang.
Oui.
Il y a des mythes comme ça, où des fois ça peut être vrai. Bien, on va essayer de voir qu'est-ce qui est arrivé pour que ça soit possible, puis on va parler des différents dons comme ça.
Le collègue Daniel Aucoin de la radio CKJM à Chétiquan, en Nouvelle-Écosse, a interrogé un porte-parole de l'endroit sur un sujet qui concerne, oui, les gens de la Nouvelle-Écosse, mais les gens d'un peu partout à travers le pays, parce que la GRC a commencé à introduire les caméras d'intervention, les caméras corporelles chez les agents, quand ils interviennent auprès des gens, quand ils font une arrestation, par exemple, ou ils interpellent quelqu'un sur la route. Donc, on va parler de ça parce que ça va intéresser tout le monde. Dans les autres sujets, tu vas nous parler de dynastie, mais pas l'émission de télévision, là.
Non, les dynasties familiales les plus riches au monde. Présentement, je suis tombé sur un article de Maxime Marquette dans le magazine « Saviez-vous que? » qui date tout récent, là, le 23 janvier. Puis c'était vraiment intéressant. On va voir c'est qui les familles qui sont les plus riches et qui détiennent là, une grande part, qui ont une grande influence aussi sur le monde.
Et le quiz à la fin, là, ça va être sur les épices cette semaine, soit dit en passant.
Ah, tiens donc.
Les épices.
Vais-je faire mieux que la dernière fois?
On va sortir quelque chose. Tu sais, tu as parlé du miel la dernière fois. J'ai dit, on va rester un peu dans les aliments. Alors, le sujet de cette semaine, c'est les épices. D'abord, on va commencer avec ton fameux serment. Tu sais, je disais tantôt, on va prêter serment la main sur le cœur. Vas-y donc avec ça. C'est quoi le serment au juste, hein?
Ben justement, c'est si on se demande d'où ça sort, ça existe depuis longtemps, on le sait, c'est très utilisé dans différentes choses. Ben premièrement, un serment, ça vient du mot latin « sacramentum ».
OK. Hein?
Une promesse souvent faite en prenant à témoin Dieu ou un être ou un objet sacré. Puis, de manière générale, là, on sait qu'un serment, c'est pour attester la vérité d'un fait ou la sincérité d'une promesse ou l'engagement de bien remplir les devoirs de sa fonction. Hein? Mais prestation de serment ou assermentation aussi, on peut l'appeler comme ça, habituellement, c'est de la fonction de public, de l'armée ou du domaine de la santé, en politique ou encore dans un ordre ou un groupe religieux. C'est souvent, pas même tout le temps dans une de ces parties-là que ça a été appliqué. Puis, il y a un sociologue, Max Weber, dans son livre « Le judaïsme antique » qui est paru là, en 1918, okay. Ça fait longtemps, mais qui avait montré, lui, déjà que le serment était une des formes de groupement humain les plus universelles et les plus efficaces. Puis vraiment, on voit que du Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui, le serment se retrouve sous multiples formes dans plein de sortes de domaines. Et l'objet des serments au monde médiéval, ça concernait surtout ce que les parties allaient devenir et comment elles allaient se transformer, mais les engagements modernes, ça concerne surtout des objectifs d'ordre commerciaux, on va dire aujourd'hui. Mais avant de pouvoir prendre son siège à la Chambre des communes, par exemple, et de voter, ben un député qui a été élu doit prêter serment ou faire affirmation solennelle d'allégeance ou de loyauté au souverain. Hein? Puis ça, c'est encore ça de nos jours. Puis quand un député prête allégeance au souverain, ben il prête aussi allégeance aux institutions qui sont représentées par le souverain, ça veut dire, et aussi au principe de la démocratie. On prête serment là-dessus. Puis, j'ai regardé l'histoire, je suis vraiment là, ébahi par qu'est-ce qui s'est passé pour l'arrivée de ça. La loi constitutionnelle de 1867, elle a fait obligation à tous les députés de prêter ou de souscrire au serment d'allégeance. Mais au Moyen Âge, la prestation de serment d'allégeance n'était pas obligatoire au Parlement anglais. On regarde au 16e siècle, là, l'Angleterre a eu des gros conflits politiques, religieux. Ça a été à l'origine de la prestation de serment en tant que préalable légal. C'est à partir de là qu'on a dit, puis particulièrement quand il y a eu la scission de l'Église d'Angleterre, puis la lutte de pouvoir entre les protestants et les catholiques. Ça fait un gros bordel. Puis l'acte de suprématie qui a été adopté en 1563 sous le règne de reine Élisabeth I a imposé le premier serment aux députés. Puis le but, c'était d'empêcher les catholiques d'occuper une charge publique. C'était carrément ça le but du serment quand ça a été instauré.
OK, on a dit, vous autres, si vous ne voulez pas prêter serment, dans une certaine mesure, vous ne serez pas en mesure de siéger. C'est à toute fin utile ce que ça dit, là, dans un sens.
Ben oui, ça les empêchait. Les catholiques romains ne pouvaient pas parce qu'il fallait qu'ils prêtent serment. Puis en 1678, on a adjoint une déclaration contre la transsubstantiation. Ça, c'est le fait que tu sais, dans le Nouveau Testament, là, Jésus il change l'eau en vin.
Okay.
C'est ça, la transsubstantiation. Là, je l'ai dit comme faux.
Okay.
Mais c'est un long mot. Mais c'est ça, tu sais, vu qu'ils ont adjoint une déclaration contre ça, ça a empêché les catholiques romains aussi de siéger au Parlement. 1678, en 1700.
Parce que tu te trouvais dans une certaine mesure en prêtre. Si jamais tu décidais de prêter serment, tu te trouvais dans une certaine mesure à rompre avec ta propre religion, dans un
ouais,
sens.
Oui, à dire que c'est pas vrai que l'eau peut se transformer en vin, c'est quand
ça,
même assez
c'est ça, ouais, OK, ouais.
Tu sais, quand on regarde ce que la science dit, là, vous êtes un peu scientifique, mais bon, c'est spécial. Moi, je savais pas que l'histoire du serment remontait à ça, puis des guerres de religion.
Wow.
En 1701, les Jacobites, les partisans de Jacques II, ont voulu rétablir le catholicisme, eux autres, en Angleterre, puis pour renforcer le protestantisme. Là, les autorités anglaises ont riposté en instaurant 3 serments d'État dans le but d'empêcher les catholiques et les jacobites d'accéder à des charges publiques aussi.
Bon.
Alors, c'est vraiment ça le but.
D'une pierre deux coups.
Oui, les députés devaient prêter serment d'allégeance au roi d'Angleterre, prêter serment de suprématie, ça dénonçait le catholicisme et l'autorité papale, puis prêter serment d'abjuration, par lequel, là, il était répudié tous les droits de Jacques II et ses descendants au trône d'Angleterre. Alors, le serment d'abjuration renfermait les mots « au nom de la foi chrétienne », alors ça empêchait aussi les Juifs de prêter serment. Quand même assez spécial, puis plus de 100 ans plus tard, le Parlement britannique a adopté en 1829 une loi pour abolir la déclaration contre l'eau qui se transforme en vin, la transsubstantiation. Fait que là, c'est devenu un petit peu plus accessible. En 1858, les serments de suprématie, d'allégeance et d'abjuration ont été remplacés par un serment unique pour les protestants. Et plus tard, dans la même année, 1858, le Parlement britannique a adopté une autre loi qui permettait aux Juifs de siéger comme députés. On voit que ça a pris des centaines d'années quand même. Et si on regarde ici au Canada, là, le serment d'allégeance que les députés doivent prêter avant de prendre place à la Chambre des communes, on s'est inspiré vraiment des Britanniques, mais on est très différent de ce qu'ils faisaient, eux, d'un serment anti-pape, là, anti-papauté. Nous, ce n'est pas comme ça au Canada. Là. À la Chambre des communes britannique, c'était vraiment anti-pape. Puis, seulement en 1758, où au Canada, on a eu la première assemblée populaire, puis c'était en Nouvelle-Écosse hein, que ça s'est fait, la toute première, on a décidé que les lois pénales et électorales en vigueur en Grande-Bretagne allaient s'appliquer. Puis là, les catholiques, les juifs n'avaient pas le droit de voter, puis les députés étaient tenus de prêter les 3 serments d'État. Alors, ça, c'est pour le Canada. En 1789, c'est là que l'Assemblée législative a révisé les critères et on a accordé le droit de vote aux catholiques et aux juifs. 1789. Là, du côté de la Nouvelle-Écosse, 1846 seulement, où on a aboli le serment d'État. Du côté de l'Île-du-Prince-Édouard, vite, vite, en 1780, parce que l'Île-du-Prince-Édouard, c'était la seule autre colonie qui avait un gouvernement représentatif à l'époque, à la fin des années 1700. Alors, on a restreint le droit de vote aux protestants, et c'est seulement en 1830 que les catholiques ont obtenu le droit de vote et le droit de se présenter aux élections. En 1846, c'est les Juifs qui ont eu à leur tour le droit de vote à l'Île-du-Prince-Édouard et de se présenter pour des élections. Et ici, au Nouveau-Brunswick, moi, je suis au Nouveau-Brunswick présentement, ça a été fondé à titre de colonie de Nouveau-Brunswick en 1784. Ils ont tenu leur première élection l'année suivante, en 1785. Puis là, tous les hommes blancs âgés d'au moins 21 ans qui acceptaient de prêter serment d'allégeance étaient autorisés à voter à la première élection. Mais l'année d'après, les catholiques, leur vote a été annulé parce que l'Assemblée avait dit que leur vote était contraire aux lois britanniques, donc illégal.
Attends, là, pour aller voter, pour mettre une croix sur un bulletin de vote, fallait que tu prêtes allégeance, c'est ça que tu es en train de me dire?
Oui.
Ah, ben, oui, wow, oui. Fallait que tu prêtes serment. Wow, c'est spécial. Imagine en 2025 s'il fallait qu'on fasse ça encore. C'est déjà difficile d'amener les gens dans les isoloirs pour les faire voter. Imagine si, en plus, il fallait qu'avant de s'en aller voter, tu leur demandes de mettre la main sur le cœur, puis la main, je ne sais pas, moi, sur une Bible ou un livre quelconque, et dire de prêter serment d'allégeance. Tu pensais comment qu'on ferait baisser le taux de vote en 2025?
Ah, oui.
Je ne même pas y passer.
Puis moi, je ne savais vraiment pas avant d'étudier là-dessus, je voulais présenter le serment aujourd'hui, mais j'ai fait tellement de découvertes, puis je savais pas que c'était vraiment les protestants qui voulaient empêcher les catholiques là, d'accéder à des fonctions publiques au départ. Et puis on pourrait parler en 1763 de la fondation de la province de Québec. Ça, c'est vraiment intéressant parce que les élus étaient tenus de prêter serment d'allégeance, de suprématie de déclaration, encore aussi contre la transsubstantiation. Et en 1774, au Québec, les catholiques romains pouvaient prêter serment d'allégeance, puis le serment d'abjuration empêchait encore les Juifs d'occuper une charge publique en 1774. Puis, quand il y a eu 1791, la loi constitutionnelle, ça a scindé la province de Québec en deux provinces. Il y avait le Bas-Canada et le Haut-Canada. Là, les Juifs pouvaient toujours pas se présenter à cause qu'il y avait obligation de prêter serment d'allégeance sur le Nouveau Testament. Puis on sait que les Juifs là ne croyaient pas au Nouveau Testament, à l'histoire de Jésus. On avait l'Ancien, mais pas le Nouveau. Puis en 1832, ben c'est là que le Bas-Canada a adopté une loi qui accorde aux Juifs les mêmes droits et privilèges que les autres citoyens. Et ça, c'était une première dans tout l'Empire britannique. C'est au Bas-Canada que ça s'est fait, qui était la moitié de la province du Québec à l'époque. Donc, en tout cas, serment, c'était pour faire un tour vite historique là-dessus, mais j'ai appris beaucoup de choses, je te dirais, Simon, puis je trouve ça fascinant de découvrir l'histoire ou de redécouvrir l'histoire. Et ce qui a apporté le serment, ben c'était pour empêcher les catholiques romains d'accéder à des fonctions publiques au départ.
Et comme tu le disais tantôt, on prête serment, oui, dans le domaine de la vie politique, mais dans beaucoup d'autres circonstances. Si vous êtes un jour ou l'autre appelé, par exemple, à témoigner dans un procès, ou encore à faire partie d'un jury, des choses comme celle-là, vous allez forcément être appelé à témoigner, mais à prêter serment, comme quoi vous jurez de dire toute la vérité et puis d'agir en votre âme et conscience, là, comme on dit, là, pour faire les choses dans les règles de l'art pour que le procès se déroule correctement. Donc, c'est dire que le serment, ça dépasse de beaucoup aujourd'hui le strict domaine politique. Là.
Les médecins, tu sais, dans le domaine de la santé, on prête serment dans l'armée aussi. Là. Donc, c'est vraiment dans plusieurs... facette.
Intéressant. Dans deux, trois, je ne sais pas combien de temps vous allez vous arrêter. Pour vrai, là, vous allez prendre une pause, j'allais dire dans deux, trois minutes, mais je ne sais pas combien de temps vous allez vous arrêter à votre station de radio locale. Je veux dire, dans quelques instants, on va revenir avec les caméras corporelles. C'est très intéressant. Ça commence là, tranquillement, pas trop vite, à se répandre dans les différents corps de police et plus particulièrement, dans le cas qui nous intéresse, à la GRC. Hein, la Gendarmerie royale du Canada, on a commencé à déployer justement ces caméras d'intervention et notre collègue à CKJM à Chétiquan, Daniel Aucoin, a parlé avec un porte-parole de la GRC, le détachement de l'endroit. Mais ça s'intéresse, ça va toucher tout le monde à travers le pays, je vous avertis. Restez des nôtres puisque dans un instant, on revient avec cette entrevue-là dans le cadre de l'émission « Peut contenir des infos ».
Contenir des infos.
Il y a les membres de première ligne de certains détachements de la GRC en Nouvelle-Écosse, comme à différents autres endroits à travers le pays, qui commencent à porter des caméras d'intervention. Hein, tu sais ce que c'est qu'une caméra d'intervention, Sébastien? Hein,
ça fait longtemps que c'est supposé d'arriver de plus en plus là, dans les corps policiers, puis je pense que c'est une bonne chose.
Oui, il y a notre collègue de la radio CKJM à Chétiquan, Daniel Aucoin. Il a eu l'occasion de discuter avec le caporal Guillaume Tremblay. Il est agent d'information publique pour la GRC en Nouvelle-Écosse. Et il va nous expliquer, entre autres choses, à quoi ça sert les caméras d'intervention, comment elles pourraient permettre de régler plus rapidement, par exemple, des plaintes du public et améliorer également la collecte de preuves. Donc, on écoute son entrevue. Vous allez voir, c'est très intéressant cette façon dont ça commence à se déployer en Nouvelle-Écosse et ailleurs à travers le pays.
Peut contenir des infos.
Et c'est Daniel Aucoin de Radio CKJM à Chétiquan, les policiers de première ligne de la GRC en Nouvelle-Écosse qui commencent à porter des caméras d'intervention. On en parle aujourd'hui avec le caporal Guillaume Tremblay, agent d'information publique pour la GRC en Nouvelle-Écosse. Caporal Tremblay, bonjour.
Bonjour Daniel, merci de m'avoir invité à votre émission aujourd'hui.
Ces caméras d'intervention, ça fait partie d'un programme de déploiement national au sein de la GRC?
En effet, c'est une initiative nationale de la GRC et ça a été mandaté par le gouvernement canadien avec un investissement du gouvernement de plus de 200 millions étalé sur plusieurs années avec d'autres investissements chaque année d'environ 50 millions de dollars.
Et on s'attend que tous les agents de première ligne de la GRC seront équipés d'une caméra d'intervention d'ici quand?
Alors, d'ici les prochains mois, avant l'été, environ 600 policiers de la GRC, alors c'est tous les premiers répondants de la GRC en Nouvelle-Écosse, seront munis de cette caméra d'intervention pour vraiment obtenir et capturer la preuve durant les événements ou les incidents pour lesquels ils sont signalés à la GRC.
Est-ce que c'est favorablement accueilli par le corps policier?
Absolument. On a eu vraiment des bonnes interactions avec les policiers et avec les communautés aussi. On a eu des consultations dans plusieurs communautés. Il y a eu plusieurs pilotes au travers le Canada pour les caméras d'intervention. C'est vraiment accueilli par les policiers au même niveau que la communauté. Alors, ça donne un autre paire de yeux pour l'intervention à chaque incident que les policiers se rapportent.
Parle-nous un peu plus de l'importance de l'utilisation des caméras d'intervention pour la GRC. Comment important que c'est vraiment?
Alors, comme j'ai mentionné, ça donne vraiment un autre témoin qui est présent. Ça améliore la transparence avec les communautés. Ça peut aussi réduire le temps pour les plaintes publiques contre les policiers, que ce soit une plainte que vous mettez contre un policier pour une intervention. C'est facile à vérifier. C'est vraiment un témoin qui est silencieux, qui capture toute cette preuve-là qu'on peut se fier par après.
Est-ce que les policiers devront avertir le public lorsqu'ils utiliseront leur caméra?
Alors, quand c'est possible, la politique de la GRC est claire. On peut signaler au public que la caméra enregistre. Mais ça va être facile pour le public de voir que la caméra enregistre à cause que le policier, quand il sort de l'autopatrouille, la pratique, ça va être quand on enlève notre ceinture de sécurité, on allume la caméra. Alors, on fait enregistrer la caméra. Et il y a un indicateur rouge quand la caméra n'enregistre pas et verte quand la caméra enregistre.
Qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent que ça pourrait brimer leur droit à la vie privée?
C'est certain qu'il y a des politiques qui vont entourer les caméras d'intervention pour nos policiers. Alors, tout est indiqué, et c'est public, et d'ailleurs, la population peut vraiment se référer au site de la GRC pour les caméras d'intervention, pour voir dans quelle situation que les policiers vont enregistrer, dans quelle situation on peut demander aux policiers de ne pas enregistrer.
Alors, Caporal Guillaume Tremblay, je rappelle que tu es agent d'information publique pour la GRC en Nouvelle-Écosse. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous parler de les caméras d'intervention que vont porter les policiers de première ligne de la GRC en Nouvelle-Écosse. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Daniel. Et puis, je voudrais vraiment vous remercier. J'étais assigné au poste de la GRC à Chéticamp entre 2015 et 2018. Et c'est vraiment une merveilleuse communauté avec la population très positive avec les policiers dans votre secteur. Et je vous remercie.
Pour certains détachements de la GRC en Nouvelle-Écosse, l'utilisation des caméras d'intervention et du système de gestion des preuves numériques sera faite de façon graduelle au cours des prochains mois. Les policiers indiquent que le déploiement des caméras d'intervention est une mesure de plus pour faire de la GRC une organisation plus moderne et responsable et renforcer la confiance des communautés à son égard. Ici Daniel Aucoin pour IJL à Chéticamp.
Merci beaucoup à Daniel Aucoin pour cette entrevue et merci évidemment au caporal Guillaume Tremblay pour ses explications à propos des caméras corporelles ou les caméras d'intervention, très intéressant. On attaque notre deuxième sujet. On va parler cette fois-ci dans ce bloc de Peu contenir des infos, on va parler des dons spéciaux.
Oui, puis ça m'a toujours fasciné ça. Puis j'ai entendu souvent parler, par exemple, des gens qui pouvaient arrêter le sang. Hein, ça, c'est un des traits communs, un don spécial qu'on aurait, là, quelqu'un. Et des fois, c'est juste en nommant le nom de la personne, on nous disait, paf, le sang arrête de couler. Hein? Okay. Donc, ça fait truc de grand-mère, mais bon, quand même, hein, c'est des dons spéciaux. Et ça, c'est dans le folklore, surtout du Québec et de l'Acadie, hein, les arrêteurs de sang. On retrouvait des gens qu'on appelle comme ça, du fait qu'ils ont le don de pouvoir arrêter le sang en cas de blessure. Dans certains cas, la personne peut arrêter le sang par un contact. On y touchait à la personne blessée. Et comme je te le disais, là, dans d'autres cas, il fallait seulement prononcer le nom ou penser à la personne qui avait le don. Puis là, on arrêtait de saigner. Et puis moi, j'ai plein de monde dans ma vie qui m'ont dit que ça marchait, puis qui m'ont dit qu'ils l'ont fait, puis que, ah oh oui, moi, dans ma famille, j'ai un arrêteur de sang. Alors, ça m'intriguait, puis je voulais faire le tour un peu. Puis on va parler d'autres dons spéciaux aussi par la suite. Mais pour les arrêteurs de sang, l'origine supposée, ça varie. En Acadie, il semblerait que le don vienne d'une famille ou bien que ça se passe de famille en famille ou bien que ça se donne de personne à personne. Habituellement, d'un homme à une femme ou vice-versa. Hein, donc, c'est dans le folklore.
Ouais.
Au Québec, ça serait un homme dont le père est décédé avant sa naissance. Là, il recevrait un don.
Comme un legs, là, dans un sens. Là. C'est comme... Comme un legs, dans un sens. Hein?
C'est ça. Si le père meurt pendant que la femme est enceinte, là, puis, okay. puis là, on naît, puis notre père est déjà mort avant la naissance, on aurait un don qui nous vient, puis là, ça serait arrêteur de sang. Dans le folklore québécois, j'ai pu lire ça. Et une autre explication voudrait au Québec que le 13e fils d'affilée, si jamais il n'y a pas de filles qui sont nées là, pendant jusqu'au 13e enfant, le 13e fils naîtrait avec un don. Hein, numéro 13. Qui
fait des grosses familles, hein, c'est ça.
Ben oui.
Les familles de l'époque.
On en a des histoires folkloriques. Hein. Mais c'est sûr que, bon, quand on regarde l'explication de tout ça, il pourrait y avoir des explications plus scientifiques là, pour le fait d'arrêter ça. Ben, il y a l'effet placebo. Hein, ça, c'est sûr. On en a déjà parlé à l'émission, l'effet placebo, pour on sait à quel point c'est puissant, le cerveau peut être puissant. Ben, le simple fait de croire en l'efficacité d'un traitement, mais ça peut parfois aider. Alors, si on croit vraiment qu'en pensant à une personne, ça pourrait arrêter le sang, est-ce que l'effet placebo pourrait avoir joué un rôle? Là? Peut-être. Les techniques de pression, les arrêteurs de sang utilisaient souvent ça, des techniques de pression sur des points précis du corps. Alors, ça a pu contribuer à ralentir le flux sanguin là, sans que ça soit un don vraiment magique. Peut-être qu'il y en a que c'est comme ça qu'ils l'ont appliqué. Puis le fait d'avoir des substances coagulantes naturelles. Hein, il y a certaines personnes qui pourraient sécréter des substances naturelles qui ont des propriétés coagulantes. Est-ce que ça pourrait être des arrêteurs de sang? Bon, moi, j'y vais avec mon avocat du diable, tenter d'expliquer ça scientifiquement. Mais bon, ceci étant dit, des arrêteurs de sang, on en a tous entendu parler plus ou moins proche de nous, en tout cas au Québec et au Nouveau-Brunswick, ça a été très répandu. Est-ce que ça existe vraiment, Simon? Ben, je te laisse te faire une idée, mais avec les réponses que je t'ai données, il y a peut-être des petites explications qui pourraient nous montrer pourquoi ça a fonctionné si bien. Mais jusque-là, ça pourrait être des croyances aussi. Hein? Scientifiquement, c'est pas prouvé.
Moi, j'ai une grand-mère qui n'était pas une arrêteuse de sang nécessairement, mais elle guérissait les verrues.
On
disait qu'elle guérissait, c'était une guérisseuse de verrues. Quand tu avais une verrue, moi-même, je me souviens pas. Si c'est arrivé, j'étais jeune, puis ça me revient pas à la mémoire, mais on m'a dit ça, que quand tu avais une verrue, tu allais voir ma grand-mère, et puis elle disait de frotter avec un sou noir, je pense, ou un truc comme ça. Puis après ça, elle disait, prends la scène, puis lance la scène le plus loin possible pour pas que tu le retrouves. Et apparemment que dans les heures ou les jours suivants, là, rapidement, la verrue disparaissait, comme par magie. Simplement par cette interaction-là. Je ne sais pas quel était le processus. Est-ce que c'était le fait qu'il y avait un certain métaux dans la pièce de monnaie? Est-ce que j'ai jamais réussi à comprendre? On ne m'a jamais vraiment non plus expliqué, parce que je pense que le monde ou les gens eux-mêmes qui m'ont fait part de cette affaire-là ne savaient pas non plus la raison exacte, mais apparemment, elle a guéri les verrues.
Mais oui, c'est des dons étranges, ça. Puis je l'avais déjà entendu, celui-là. Malheureusement, il m'avait échappé. Je n'ai pas fait de recherche plus approfondie sur celui-là. Mais oui, les gens qui guérissent les verrues, je n'ai déjà entendu parler. Mais d'autres dons comme ça, on pourrait en mentionner quelques-uns. Les gens hypersensibles, là, des personnes qui ont les sens tellement développés qu'ils pourraient percevoir des stimuli de la plupart d'entre nous, que la plupart d'entre nous ne perçoivent pas. Donc, des stimuli nouveaux, des choses qu'ils pourraient percevoir. Il y en a qui, comme ça. Il y a des gens, est-ce que tu as entendu parler de la mémoire eidétique?
Non, du tout.
En fait, la mémoire photographique, ça te dit quelque chose.
Hein? Ben oui.
C'est ça, le vrai nom, c'est mémoire eidétique. Mais ça, les gens qui se souviennent d'une image avec une précision presque parfaite, juste en ayant vu, c'est comme s'ils avaient pris une photo. Ben ça, il y en a beaucoup de gens comme ça. C'est un des dons spéciaux qui existent. Il y a le don de synesthésie. Est-ce que tu sais c'est quoi un synesthète?
Pas du tout.
On associe automatiquement une sensation à une autre. Comme par exemple, c'est des gens qui goûtent les couleurs ou qui entendent les formes.
Oui, OK.
Une espèce de changement comme ça. Il y a la synesthésie chromesthésique qui associe automatiquement une couleur à un son. Comme par exemple, il y a des gens qui voient le do de la note de musique comme du rouge, puis le mi comme du vert. C'est spécial comme don, là. On associe ça automatiquement. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est un des dons que j'ai répertoriés. Il y a ceux qui font, bien sûr, du calcul mental rapide. Là. Ouais. Ça, c'est assez impressionnant. Il y en a qui font des calculs en quelques secondes avec aucun outil, aucune calculatrice. Et va savoir c'est quoi le truc pour aligner les chiffres dans leur tête. Les capacités artistiques ou musicales aussi exceptionnelles. Il y a des gens qui ont ça, qui démontrent un talent inné, une maîtrise hors du commun des techniques.
Ouais. Il reste à peu près une minute, gros maximum. Je ne sais pas si tu en avais d'autres.
Oui, j'en ai quelques-uns. Ben, on va passer vite. Les gens qui détectent les champs magnétiques, il y en a. Il y a la mémoire autobiographique hyper-thymique. Ça, c'est des gens qui se souviennent de presque chaque jour de leur vie avec une précision incroyable, comme s'ils revoyaient un film vraiment spécial. Il y en a qui parlent plusieurs langues à la naissance. Il y a des facultés de guérison accélérées, des gens qui peuvent guérir plus rapidement que les autres. Communiquer avec les animaux, on en a entendu de toutes sortes. Il y a la précognition aussi. C'est des personnes qui affirment avoir des visions de ce qui s'en vient, hein, d'événements futurs. Donc, pour finir, la science s'intéresse de plus en plus à tous ces phénomènes-là, en cherchant à comprendre là, les mécanismes, tout ça. Ben, il y a des neurologues, toutes sortes de gens qui essaient de trouver des réponses, comment ça se fait, mais bien qu'il y a certains dons qui sont encore mystérieux, les avancées de la recherche permettent souvent de mieux comprendre la diversité des talents humains. Puis on avance là-dedans. Alors, je vais essayer d'en trouver plus éventuellement. Si je trouve des nouvelles choses là-dessus, on y reviendra. Mais pour l'instant, voici pour les dons spéciaux aujourd'hui.
Merci, Sébastien. Voilà qui clôt notre deuxième segment de l'émission. Dans un instant, on vous revient. On en sera rendu à la troisième portion. Et n'oubliez pas qu'à la fin, on a notre quiz cette semaine sur les épices. L'émission peut contenir des infos.
Avertissement.
Cette émission peut contenir des infos.
Avouez que vous aimeriez ça avoir de l'argent. Avouez hein, que vous aimeriez ça. Pas que ça vous sorte par les oreilles, mais d'en avoir un peu de collé quand même. Hein?
Est-ce
que
c'est sûr.
Ben ouais, être à l'aise à tout le moins. Là, tu sais, pas nécessairement courir après les fins de mois, comme on dit. Là.
Non, ou apprendre à se contenter de peu, ça fait aussi partie de ce qui peut rendre heureux. Mais oui, c'est sûr que l'argent, hein, ça amène du confort.
Sébastien, tu nous parles des dynasties familiales les plus riches. Attention.
Là, ce n'est pas les personnes singulières. T'sais, on ne parlera pas d'Elon Musk qui, lui, a une richesse personnelle. Là, on parle vraiment des dynasties familiales. Des gens là, qui se passent ça de génération en génération, les familles les plus riches. Donc, en 2025, là, la richesse mondiale a même atteint des sommets historiques. On n'avait jamais vu des familles aussi riches. Ben, c'est sûr, hein, l'argent, il y en a toujours de plus en plus, on dirait. Ça apparaît avec les années, cette affaire-là. Puis, on a une concentration sans précédent d'argent entre les mains de quelques familles dynastiques. Donc, je vous parle des cinq dynasties familiales les plus riches au monde. C'est un empire en tout de plus de 1,2 trillion de dollars, si on met les cinq familles ensemble.
Wow.
Alors, faut dire aussi, avant de commencer, que ça, ces familles-là ont un impact non seulement sur l'économie mondiale, mais ça dépasse largement le cadre financier. On façonne les marchés, on influence les politiques économiques, on redéfinit les standards de commerce international, tout ça. Donc, cinq familles qui représentent une accumulation extraordinaire de richesses, mais aussi des modèles de réussite entrepreneuriale, on peut le dire, hein, et de transmission intergénérationnelle. C'est vraiment des exemples qui ont fonctionné. Puis, leur influence sur l'économie mondiale continue de s'accroître d'année en année. Donc, en cinquième position, des familles les plus riches, la famille Koch de l'Empire industriel américain. Une fortune de 148,5 milliards pour la famille Koch qui a bâti un conglomérat industriel assez diversifié à partir de l'innovation pétrolière. Hein? Koch Industries, deuxième plus grande entreprise privée aux États-Unis. Ils opèrent dans le secteur qui va de la pétrochimie aux produits de consommation. Et ils ont une approche unique de gestion qui a été développée par M. Charles Koch, qui a révolutionné la gestion d'entreprise. Lui puis la famille a influencé beaucoup, beaucoup la politique américaine, la famille Koch. Donc, leurs investissements récents sont dans les technologies vertes, l'intelligence artificielle, et là, ça montre leur capacité à s'adapter au changement du marché. Donc, cinquième au top 5, cinquième position, la famille Koch. Ensuite, famille Hermès, du côté français,
ah oui.
En quatrième position. L'excellence du luxe, hein, la famille Hermès, c'est gardien d'un héritage de 170,6 milliards. La famille Hermès, bon, c'est ça, depuis six générations, c'est eux qui incarnent l'excellence du luxe en France. Leur modèle d'affaires combine tradition artisanale, innovation moderne. Ils ont un contrôle strict sur la production et la distribution. Ils limitent la croissance pour préserver l'exclusivité de la marque. Puis leur structure assure que 54% du capital reste toujours entre les mains de la famille. Hein? On veut la garder, cette richesse, du côté de la famille Hermès. Leur stratégie de croissance est organique, qu'on dit, puis ça, ils refusent aussi de délocaliser leur modèle. Alors, c'est unique dans l'industrie du luxe. Ils génèrent des marges parmi les plus élevées du secteur. Alors, bravo, famille Hermès.
Ben c'est ça. Hein? Quand il y a des compagnies, par exemple, qui envoient leur production à l'étranger, eux autres, ils préfèrent justement garder ça très, très local dans une certaine mesure pour assurer un contrôle sur la qualité et tout ça. Ben, c'est correct, ça.
Ça fonctionne. Une des cinq familles les plus riches au monde, quatrième place. Au numéro 3, les maîtres du gaz naturel, la famille Altani.
OK.
Une fortune estimée à 172,9 milliards. C'est une famille royale, la famille Altani du Qatar, qui ont transformé le petit état du Golfe, le Qatar, en puissance mondiale. C'est vraiment cette famille-là à qui on le doit. Leur richesse s'était basée initialement sur les plus grandes réserves de gaz naturel au monde, mais ça s'est diversifié à travers le Qatar Investment Authority. Leur fonds souverain est de 450 milliards, le fonds qu'ils utilisent. Leurs investissements incluent des parts dans les entreprises comme Volkswagen, eux autres, la famille Altani, il y a Barclays aussi, ou Tiffany and Corporation. Puis la famille a révolutionné l'industrie du gaz naturel liquéfié mondial. Ils utilisent leur richesse pour développer le Qatar selon la vision nationale 2030. Puis leurs investissements sont beaucoup dans le sport aussi. Ils ont acquis le Paris Saint-Germain. Puis l'organisation de la Coupe du Monde en 2022, c'est la famille Altani qui s'en est occupée. Troisième famille la plus riche au monde. Là, pour les deux premières, on fait un jump. Là, la richesse est un petit peu plus élevée. On n'est plus dans les 170 milliards. La famille Al-Nahyan, en deuxième place, Al-Nahyan, les architectes d'Abu Dhabi, eux. Et eux, c'est une famille à 323,9 milliards que ça vaut. Une famille royale des Émirats Arabes Unis, sous la direction de Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan. Et cette dynastie-là a transformé Abu Dhabi en référence mondiale de la finance, de l'innovation aussi. Avant l'arrivée de la famille, c'était pas aussi notoire. Leur empire s'étend au-delà des ressources pétrolières traditionnelles avec des investissements stratégiques dans les énergies renouvelables, l'intelligence artificielle, l'aérospatiale. Puis, ils influencent les marchés mondiaux. Ils ont aussi investi dans l'éducation et la culture. Alors, cette famille Al-Nahyan et leur vision d'Abu Dhabi 2030, c'est pour diversifier l'économie des Émirats au-delà du pétrole. Ils veulent faire des investissements majeurs dans les technologies vertes et l'innovation durable. Hein, on est rendu là, les grandes familles riches n'ont pas le choix. S'enligner vers l'avenir. Puis le numéro 1, la famille la plus riche au monde, as-tu une idée? La dynastie familiale?
Non, je ne serais pas capable. C'est de toute façon, on va pas tellement dans mes champs d'intérêt, je vais être honnête.
Non, mais... la famille Walton, l'empire du Walmart. Commerce de détail.
Ben oui.
C'est les héritiers de l'empire Walmart.
OK, ben oui, c'est ça.
Fondé par Sam Walton. C'est la dynastie familiale la plus riche au monde. La famille domine le classement mondial, 432,4 milliards de dollars. Leur empire comprend plus de 10 600 magasins dans 24 pays. Ils emploient plus de 2,3 millions de personnes, faut le dire. Puis la famille maintient un contrôle strict sur l'entreprise. Ils détiennent 46 % des actions de Walmart. Leur influence s'étend au-delà, par contre, du commerce de détail avec des investissements dans les technologies émergentes, l'immobilier commercial, l'énergie renouvelable. Puis la nouvelle génération est menée par Rob, Jim et Alice Walton. Ils ont modernisé l'entreprise en développant le commerce électronique, puis en investissant dans l'intelligence artificielle pour optimiser toutes les opérations. Puis ils ont un engagement philanthropique aussi à travers la Walton Family Foundation. Et on influence l'éducation avec ça, la conservation environnementale aux États-Unis. Donc, la famille la plus riche au monde, la famille Walton.
Hey, voilà. Merci. Tu nous fais rêver. Je ne sais pas qu'on ait nécessairement besoin d'avoir 400 quelques milliards de dollars, mais d'en avoir un petit peu de collé pour assurer nos vieux jours. Il n'y a personne qui se plaindrait de ça quand même. Hein?
Ah, c'est certain. Mais c'est beau de voir des familles. J'aime voir plus de la richesse entre familles comme ça, entreprise, signe de réussite, qu'une seule personne qui a vendu des lance-flammes, des voitures, puis qui a des brevets. Là.
Ouais, c'est ça. On donnera pas
j'aime bien le legs familial dans ces histoires de richesse, mais je veux rien enlever aux personnes qui sont riches individuellement.
Je vous parle en quelques 5 minutes ou à peu près des raisons pour lesquelles votre chien regarde parfois la télé. Ça arrive de temps en temps qu'on arrive, puis le chien est devant l'écran, puis on dit « qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qui l'intéresse dans la télévision? Est-ce que c'est simplement pour vous imiter? Est-ce qu'il y a des choses qu'il voit à la télévision qu'il reconnaît? Pourquoi les chiens regardent la télé? » Je vais vous le dire tout de suite, là, il y a plusieurs raisons. Et elle diffère d'un individu ou d'un chien à l'autre selon les traits de personnalité de l'animal. Donc, il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer pourquoi votre chien regarde la télévision. L'une des certainement plus répandues, c'est peut-être simplement par mimétisme, parce qu'il voit son maître regarder la télévision, et puis il trouve ça intéressant. Alors, pour faire des choses avec vous, ça peut arriver des fois que votre chien va s'installer devant la télévision simplement parce que vous êtes en train de regarder la télé, puis il va le faire en même temps que vous. Donc, ça peut lui arriver donc d'abandonner son écuelle pour manger, puis d'aller vous rejoindre pour regarder la télévision, mais il regarde pas parce que ça l'intéresse nécessairement. Là. La deuxième raison, c'est littéralement la lumière et le mouvement qui l'attirent. Hein? Les choses captent son attention. Là, il va se tourner vers la source de lumière et les mouvements. Et c'est plutôt rare, dit-on, que les chiens fixent les écrans sur une très longue période. De façon générale, plus souvent qu'autrement, les chiens vont jeter de petits coups d'œil vers l'écran. Tu vas rarement voir un chien qui va être planté devant un téléviseur pendant 7-8 minutes de temps.
Non, c'est ça, tu sais, il est pas trop absorbé par le programme.
Exactement. Il va juste regarder, puis il retourne la tête et tout ça.
Mais j'en ai vu tellement des drôles, des comiques de vidéos de chiens qui regardaient, mettons, le sport, puis qui sautent quand il y a un but, ou tu sais, des vidéos comiques sur Facebook ou tous les réseaux sociaux, on en voit pas mal.
Ça arrive, c'est un peu du mimétisme, mais on va y arriver tantôt. D'abord, mimer ce que fait son être humain, hein, son maître, mais aussi voir, reproduire ce qu'il voit à la télévision. Ouais. Parfois, il va justement reconnaître des scènes qui lui sont familières. Si vous regardez des scènes de films de famille, par exemple, où on vous voit la face à l'écran, comme il va faire « Oh! » Je le connais, lui. Donc, ça peut arriver aussi. De la même façon, il va peut-être reconnaître également un chien. Hein, c'est familier, un chien qui est en train de courir dans un pré, là, il va faire comme « Oh, il me semble que ça me dit quelque chose, ça. » Alors, ça se peut aussi que votre chien regarde la télévision parce qu'il voit un autre animal. Là, j'ai parlé d'un chien tantôt, mais s'il voit un chat, s'il voit un lapin, s'il voit des choses comme celle-là, ça peut arriver que votre chien va être interpellé justement par ces scènes où il va voir un autre animal. Et l'autre raison, ou l'une des autres raisons, c'est que les chiens ont une très bonne ouïe. Hein? Ils ont des facultés auditives très, très fortes. Alors, s'il perçoit un son qui suscite des réactions chez lui, un sifflet, un aboiement, des choses comme celle-là, il va forcément se tourner vers la source de son, la source audio. Et comme ça vient du téléviseur, ben là, s'il entend un chien aboyer à la télévision, ben forcément, il va se tourner vers cette source-là, mais c'est pas forcément parce que ça l'intéresse. Comment les chiens réagissent-ils face à la télévision? Les chiens, là, je vous le dis, là, on va complètement démonter tous les mythes qui existent là-dessus. Les chiens n'ont aucun, mais alors là, aucun intérêt envers la télévision. Un chien n'a pas de série préférée, il n'y a pas un quiz hebdomadaire qu'il veut à tout prix regarder. S'il le fait, si votre chien s'installe, par exemple, tous les vendredis soirs devant le téléviseur pour regarder l'émission des petits tannants, par exemple, à Radio-Canada, c'est pas parce qu'il aime ça, c'est parce que vous-même, vous êtes en train de regarder les petits tannants le vendredi soir à la télévision. T'sais, c'est aussi simple que ça.
Oui.
Les chiens, on l'a dit tantôt, ils ont plutôt tendance à regarder de façon très, très courte le téléviseur. En moyenne, comment tant un chien regarde la télévision, selon toi, Sébastien?
Non, je dirais 30 secondes, une minute.
C'est 3 secondes.
3? OK, là.
En moyenne, on dit qu'un chien va être capable de s'immobiliser. C'est une moyenne, là. C'est à peu près 3 secondes pour un chien. Rarement, il va rester immobile devant l'écran. De toute façon, un chien, ça bouge, on s'entend. Hein? C'est rare que tu vois. À part quand tu es en train de se reposer, faire la sieste, là, tu sais, un chien, ça bouge pas mal tout le temps. Et faut dire que les chiens ont aussi une vision dichromatique. C'est pour ça que la télévision, ça ne les intéresse pas tellement, parce qu'ils ne voient pas la télévision comme nous autres. Eux autres, ils perçoivent essentiellement la couleur de deux spectres de lumière, le bleu et le jaune. Donc, ils ne voient pas les images à la télévision comme nous autres. Tu sais, c'est comme quand ils voient quelque chose à la télévision, ils ne voient pas forcément les images comme nous, on les voit de façon générale. Donc, regarder la télévision pour eux autres, c'est pas un show ben intéressant là, tu sais, quand ils vont regarder la télé. Et enfin, dernière chose, qu'est-ce qu'ils comprennent vraiment de ce qui se passe à la télévision, les chiens? Pas grand-chose.
Absolument rien.
Ils peuvent apprécier ce qui se passe. S'ils voient des visages familiers, comme on l'a dit tantôt, s'ils voient un chien qui est en train de courir après un ballon ou une balle, s'ils entendent des bruits qui les interpellent, oui, à la rigueur, ça va peut-être piquer leur curiosité, mais franchement, ils ne comprennent pas les histoires, ils ne comprennent pas les intrigues. Ils peuvent aimer ça, regarder d'autres animaux. Donc, en un mot comme en mille, et pour clore ce sujet-là, quand vous partez de la maison chez vous, si vous laissez la télévision allumée pour détendre ou pour divertir votre chien en votre absence...
Tu penses pas? que ça aide, le son, qui ça ben, donne une présence?
Ben oui, OK, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que peut-être que ça va, à la rigueur, lui donner l'impression qu'il y a du mouvement
ouais,
ou
c'est
quelque chose qui se passe dans la maison.
Exact.
Mais si vous avez bon espoir qu'il regarde des émissions de télévision pendant la journée ou qu'il soit intéressé par des films... Oubliez ça, là. Il n'y a rien là-dedans qui va intéresser votre chien. Même qu'à la rigueur, ça peut même être pire parce que si à un moment donné, il entend une explosion ou un bruit qui lui fait
ouais.
peur,
ouais,
ça
ouais.
peut, à la rigueur, même déclencher des comportements que vous n'aimerez pas. Et puis qu'en arrivant à la maison, il vous a fait un gros mess, un gros dégât. Puis si vous vous posez des questions, bien, il y a des grosses chances que c'est parce qu'il aura entendu ou vu quelque chose à la télévision qui l'aura fait paniquer. Donc, à la rigueur, quand vous partez, si vous ouvrez la télévision dans l'espoir de le divertir, je vous le dis, là, c'est peine perdue à toute fin utile.
Bon, ben merci, Simon, vraiment. Si les gens se demandaient si leur chien, là, il y a des soaps préférées à la télé.
Ça. C'est ça, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Bon.
OK. Dans un instant, on vous parle des épices. Un quiz vrai ou faux sur les épices. Restez branchés.
Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz.
C'est notre quiz et c'est le dernier bloc de l'émission « Peut contenir des infos ». J'espère qu'à la maison que vous êtes prêts, j'espère que vous avez fait des études là, à gauche et à droite pour essayer de trouver notre sujet, mais je vous l'ai annoncé tantôt. Donc, entre-temps, depuis le début de l'émission, peut-être avez-vous fouillé dans les internets pour trouver des informations sur les épices. Sébastien, es-tu un gars qui cuisine un peu? Fais-tu à manger chez vous?
Oui, ben je dirais pas un des plus grands cuisiniers, mais pas un des pires non plus. J'en fais à l'occasion. C'est sûr que tu sais, je suis très bouffe rapide là, surtout que j'habite seul. Là, mais quand j'ai des invités, c'est sûr, j'aime beaucoup prendre place à la cuisine.
Essayer d'épater la galerie.
Ben oui, hein? Avec mes bons mac and cheese au homard que je fais quand j'ai de la visite.
Ouais, puis quand on veut, faire une conquête, conquérir une nouvelle personne,
ouais.
ça peut être utile là, de montrer des talents de cuisinier. Si t'espères la garder ou le garder un peu, là, c'est ça. Montrer
ça que prend quelques bonnes recettes, là, tu sais.
C'est exactement, tu sais. Montrer que t'es pas capable juste de réchauffer un plat Swanson au micro-ondes, au moins.
Ouais, ça paraît mal, ça.
Je suis capable de tailler un peu les carottes. On va parler des épices aujourd'hui. C'est un vrai ou faux, donc ça sera pas trop compliqué. Je pense que
j'ai une chance. Avec vrai ou faux, c'est pile ou face.
C'est à peu près ça. OK. Alors, la première, c'est le curcuma est l'épice la plus dispendieuse au monde. Vrai ou faux, le curcuma?
Oh. Mais j'aime le curcuma, la plus dispendieuse au monde. Je vais dire vrai. Pourquoi on aurait fait cette question sinon?
C'est faux.
Ah non, alors, c'est ça. C'est laquelle la plus?
C'est le safran. Ah. Le safran est l'épice la plus dispendieuse au monde. Le travail nécessaire pour récolter et extraire les stigmates des fleurs de crocus rend le safran comme étant l'épice la plus dispendieuse de la planète. Chaque gramme de safran requiert 200 fleurs de crocus.
Oh.
Et le safran, le vrai, là, pas des imitations comme on trouve dans les supermarchés de grandes marques, peut facilement se détailler à 10 000, 15 000 ou même 25 000 $ canadiens le kilo.
Oh!
25 000 piastres le kilo de safran. Donc, le curcuma n'est pas l'épice la plus dispendieuse du monde. Bien au contraire, c'est le safran.
Oui.
Deuxième question, le poivre noir provient des baies d'une plante grimpante. Vrai ou faux?
De quoi d'une plante grimpante?
D'une plante
les
grimpante.
Les baies? Ah, ouais, les fruits?
Les baies, les fruits, oui, d'une plante grimpante.
Le poivre noir? Déjà, je vais dire vrai.
C'est vrai. Alors, okay, tu marques ton premier point. Il y en a quoi? 8? Non, 10 en tout et pour tout. Donc, là, tu sais, 50%.
Excellent.
Alors, c'est vrai, le poivre noir provient des baies d'une plante grimpante qui s'appelle le poivrier noir. Alors, voilà. Mm-hmm. Poivre noir, poivrier noir. On vient au curcuma dont je parlais tantôt. Le curcuma est utilisé pour colorer les aliments en rouge. Vrai ou faux, selon toi?
Ben, j'aurais dit orange plus, mais je vais dire vrai.
C'est faux.
Parce que c'est orange.
C'est ça. Le curcuma est une épice couramment utilisée dans la cuisine indienne, entre autres, pour son goût, mais aussi sa couleur jaune vif, comme tu disais, qui tire un peu sur le orange.
Oui, c'est ça, c'est ça. J'aurais dû m'écouter et dire faux en disant. Je pensais qu'il avait penché vers le rouge, mais non.
Ben ouais, des fois, c'est ça. Hein. Il faut écouter notre première impression. Il faut écouter là où la tête nous porte. La cannelle, la quatrième question. La cannelle provient de l'écorce intérieure d'un arbre. Est-ce que c'est vrai ou faux, selon toi?
Ben, ça a l'air de l'écorce, en tout cas, de la cannelle intérieure. Je veux dire faux.
Ah, mon Dieu, ça va pas bien, ton affaire.
Non, non, c'était vrai. Moi, je m'écoute pas. Hein. Non, tu vois que... Ça?
Exactement, tu es à 25%, on est rendu à 4 questions, tu en as une de bonne. Donc, la cannelle, vrai, la cannelle est extraite de l'écorce intérieure du cannelier. Alors, ça se présente sous la forme de tubes enroulés sur eux-mêmes, mais ce sont effectivement des écorces du cannelier qu'on récolte à l'intérieur et c'est en les faisant sécher là, de cette façon-là que ça se retrouve à former cette espèce de bâton de cannelle qu'on achète à l'épicerie.
Je m'étais dit qu'il y aurait un piège dans la question, puis que ce serait intérieur au lieu de extérieur dans la question. Je pensais que c'était faux, mais non.
OK. On y va maintenant avec la cinquième question, le gingembre. Le gingembre est une racine souterraine. Est-ce que c'est vrai ou faux, selon toi?
Ben, c'est une racine, en tout cas. La souterraine, je vais dire oui, vrai.
Ben oui, c'est vrai. Yeah. Là, tu te rattrapes. Là, c'est bon, ouais. C'est, effectivement, le gingembre est une racine souterraine. Elle est utilisée pour son goût épicé, on le sait. Et elle est utilisée également pour ses propriétés médicinales.
On en voit tout le temps avec des sushis aussi.
Oui, oui.
Propriétés médicinales, en effet. Moi, on m'a dit toujours de faire des tisanes au gingembre, que ce soit pour l'estomac, que ce soit pour même les grippes. Tout ça, c'est très, très utilisé en médecine, ouais, le gingembre.
Oui, on fait des boissons gazeuses au gingembre également. Hein?
Oui.
On en met là-dedans. On est rendu maintenant à la sixième question. Ça, c'est une belle poigne. Ben, une belle poigne. Le paprika est fabriqué à partir... de poivrons séchés, vrai ou faux?
Tu dis que c'est une colle, je vais dire faux. Il doit y avoir un petit quelque chose dans la question. Ah, qui
c'est vrai. Vrai. Ouais, le paprika, il y a peu de gens qui le savent, hein, mais le paprika, ça a l'air anodin comme ça quand tu regardes ça du paprika, mais du paprika, là, c'est rien d'autre que des poivrons qui ont été séchés. Les poivrons rouges, là, tu sais, okay. Les poivrons rouges qu'on achète à l'épicerie. Là,
c'est pour ça que c'est rouge. Puis c'est
bon. Exactement ça. Le paprika est effectivement obtenu tout simplement en faisant sécher des poivrons rouges qui sont ensuite broyés et moulus. Donc, on a peur. On voit ça, hein, on voit on voit du paprika, par exemple, dans l'armoire là, ou dans un pot, puis on dit que ça doit être fort, ça. Puis on est un petit peu réticent à vouloir goûter du paprika. Et pourtant, du paprika, c'est juste des poivrons rouges. Tu peux te mouiller le bout du doigt, les prendre ça, là, puis ça
c'est pas trop épicé, non?
Non, non, c'est ça. Puis tu sais qu'est-ce qu'on fait avec du paprika quand on fait un bon pâté chinois? Fais-tu ça, toi, un pâté chinois de temps en temps?
De temps en temps, avec fromage, moi, par-dessus.
Ah ouais, OK. Ben,
c'est très important.
Ben oui, ben moi, je mets du paprika. Tu mets du paprika un peu, tu ne pas un petit peu du paprika sur tes pommes de terre, sur le dessus de ton pâté chinois. Et ça, quand tu vas mettre ça au four, ça va donner, pas tellement de goût, parce que ça ne goûte pas grand-chose, du paprika, quand tu y penses. Hein. Ça a un petit goût un peu de poivron, là, mais ce n'est c'est pas très, très prononcé. Mais c'est surtout que ça va donner un peu de couleur, puis ça va faciliter le brunissement des pommes de terre quand tu vas les mettre au four.
Donc, pour une belle apparence, utiliser le paprika.
Exact. Ça ferait un bon slogan, ça. Oui. Marque de commerce, le paprika pour une belle couleur, mettez du paprika. Belle apparence, hein? C'est une belle apparence. Le clou de girofle, septième question, le clou de girofle, devrait-on dire, est une graine. Vrai ou faux, selon toi, le clou de girofle?
Une graine pour faire pousser là, une plante, je vais dire, je vais dire vrai.
Hey, mes amis, ça va pas bien?
Non, c'est pas une graine. Hein?
Non,
on peut pas planter un clou de girofle.
Le clou de girofle, non, tu peux pas planter un clou
ça
de girofle.
Ça est bon, hein?
Tu peux planter un clou de 6 pouces, mais pas un clou de girofle. Alors, le clou de girofle est en réalité le bouton floral. Bouton floral séché du giroflier, c'est une espèce de plante à fleurs qui est originaire de l'Indonésie. Alors, le clou de girofle, ce n'est pas une graine, c'est plutôt une fleur qu'on a fait sécher ou un bouton d'une fleur qu'on a fait sécher, tout simplement.
Ouais, je vais m'en rappeler.
Huitième question, le cumin. Connais-tu le cumin?
Oui. Vite, vite, comme ça, je me rappelle pas qu'est-ce que ça a comme goût, mais je sais que j'en ai déjà vu souvent, j'en ai même déjà mis dans de la nourriture.
Le cumin est souvent utilisé, puis ça va peut-être te mettre la puce à l'oreille, le cumin est souvent utilisé dans la cuisine mexicaine, vrai ou faux?
Je vais dire faux.
Hé, hey, mes amis, waouh, t'es en train de prendre une vraie dérape, c'est vrai, c'est vrai. Waouh, OK, il va te rester juste deux questions pour te rattraper un peu. T'as une réponse jusqu'à date, c'est ça?
Non, j'en ai deux.
T'en as deux, c'est ça. Le cumin, le cumin est une épice qui est couramment utilisée, je vous dirais, dans la cuisine arabe, indienne, et mexicaine.
Là, à ma défense, là, je ne suis jamais allé au Mexique. Bon.
Alors, ben, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles tu n'étais pas au courant.
Je ne savais pas.
Qu'on retrouve du cumin. Bon, je ne savais pas, c'est correct. neuvième question, la coriandre. Est-ce que la coriandre est de la même famille, selon toi, que la carotte et le céleri?
Ça goûte fort, en tout cas, la coriandre. Je dirais non.
La coriandre, là, c'est vrai.
Ah.
Ouais, la coriandre appartient effectivement à la famille des apiacées. Et ça, la famille des apiacées, ça regroupe effectivement certains légumes courants tels que la carotte et le céleri. Et quand tu regardes d'ailleurs les feuilles de la carotte, du céleri et de la coriandre, tu vas remarquer que l'apparence est somme toute assez semblable. Je ne dis pas que c'est pareil, là, mais on va trouver des similarités. Et la coriandre, elle est cultivée depuis l'Antiquité, soit dit en passant, surtout pour ses propriétés médicinales. En cuisine, on utilise beaucoup la coriandre dans les plats asiatiques et en particulier en Thaïlande. Alors, vous le saurez maintenant, coriandre, c'est pas mal de la même famille que la carotte et le céleri. C'est pas pareil, évidemment. C'est pas
parce non, que c'est ça, le goût est beaucoup plus prononcé. Puis il y a des gens qui aiment beaucoup, puis d'autres qui aiment vraiment pas. On dirait qu'il n'y a pas d'entre-deux pour la coriandre. Soit qu'on adore, soit qu'on n'aime pas. C'est mitigé.
C'est ça. Faire du poulet à la coriandre, entre autres choses.
Moi, j'aime ça. Moi, j'aime la coriandre. J'aime le goût. Mais c'est vrai que c'est prononcé. Donc, manger beaucoup de choses avec la coriandre, peut-être qu'on peut se tanner aussi assez vite, je ne sais pas. Mais...
C'est même un débat presque dans les internets, entre guillemets. Hein? Oui. Il y a des gens dans les réseaux sociaux qui disent « Arrière, suppos de Satan, t'aimes la coriandre. Ouais. » C'est quasiment ça. Quelle est une des pires affaires sur la planète? C'est la coriandre. C'est quasiment rendu un mème là, dans un sens. Là. Alors, la coriandre, hein, t'aimes ça ou t'aimes pas ça, mais la coriandre, si vous aimez les carottes puis le céleri, en théorie, vous devriez peut-être aimer la coriandre, je ne sais pas quoi.
Non,
tu
je ne trouve que pas que le goût ressemble. Non, c'est ça.
Et dixième et dernière question, le romarin. Le romarin est principalement utilisé dans la composition des desserts. Est-ce que c'est vrai ou faux, selon toi?
Je veux dire faux.
Ben, tu viens de te rattraper.
Troisième point. Il me semblait que ça ne fitait pas romarin dessert.
Non, ça ne fit pas partout, non, effectivement. Le romarin, c'est une herbe aromatique qui est utilisée dans la cuisine salée plutôt que la cuisine sucrée. Mm-hmm. Si vous mettez du romarin dans vos plats sucrés, là, je sais pas, il y a quelque chose de dérangé. Là. Je ne dis pas que vous êtes dérangé, mais il y a quelque chose un petit peu de dérangé dans votre affaire. Alors, on s'en sert notamment du romarin pour assaisonner les viandes, entre autres choses, et les plats mijotés. T'as-tu fait le compte?
Trois bonnes réponses.
Ouais,
sur
10. C'est quand même pas si pire.
Un gros 30%. Non, il faut dire que je connais pas mes épices.
Ben, c'est ça. Ben, tu sais, si tu dis que tu restes seul?
Oui.
Puis tu cuisines pas nécessairement souvent. Donc
non, pas très.
Les épices, ça doit être quoi? Le sel, le poivre, j'imagine?
Même pas. Parce que depuis certains problèmes d'estomac, je mets pas grand-chose. Non, c'est ça. Donc, je ne connais pas les épices. J'aimais manger épicé, par contre. Mais ça, c'est une autre histoire. Là. C'est les,
ben, c'est ça.
Les sauces épicées, ça, je m'y connaissais un peu, mais je ne peux plus aujourd'hui.
La semaine prochaine, c'est toi qui vas avoir le quiz.
Ah oui.
La semaine prochaine, tu disais tantôt.
Comment?
Ça va être quoi ton quiz la semaine prochaine que tu
disais? Ah oui, tu voulais déjà savoir le sujet pour te préparer.
Tu l'as annoncé tantôt.
Non.
Non, OK, je pensais que tu l'avais annoncé. OK, je
me semble pas, me semble pas, parce qu'il ne faut pas que tu te prépares. Je veux que tu coules.
OK, c'est bon. Alors, la revanche de Sébastien la semaine prochaine pour le quiz. Et nous allons aussi recevoir une invitée la semaine prochaine qui va nous parler de la Journée mondiale de la radio. Tu sais que ça s'en vient pendant pas grand temps, la Journée mondiale de la radio. Alors, la semaine prochaine, on aura une entrevue sur le sujet. Passez une bonne émission, hein, Sébastien. T'as aimé ça encore cette semaine?
Oui, j'ai beaucoup ri, surtout ton affaire de chien dans la télévision. J'ai eu beaucoup de plaisir pendant toute l'émission. Merci pour ce quiz où j'ai appris plein de choses sur les épices. Okay. Et je donne rendez-vous aux gens, bien sûr, semaine prochaine, même heure, peu importe où vous soyez. Au Canada, on sera fidèles au poste.